Bonjour à chacune, bonjour à chacun. C'est une joie pour moi d'être devant vous ce matin, là, une fois de plus. J'aime bien partager la parole, ce qui ressort de ma méditation. Et puis, ce matin, on va continuer sur une lancée que ceux qui sont habitués à fréquenter le culte ici connaissent. Peut-être que vous allez le découvrir ce matin. On est en train de s'attarder sur un personnage haut en couleur, un personnage qui est un des piliers de la foi, et qui s'appelle Abraham. Il n'y en a plus beaucoup qui s'appellent comme ça maintenant, mais dans la Bible, il y en a un qui s'appelle Abraham, et puis il a une vie assez mouvementée, une vie faite de changements, une vie faite de défis, une vie faite de beaucoup, beaucoup de couleurs différentes. Et puis, on en a abordé différentes de ces couleurs, on a abordé toutes les promesses qu'il a reçues, par exemple, ces promesses qui sont pour lui des stabilités dans sa vie, parce que quand on a une vie qui change, on a besoin aussi de stabilité. On a abordé aussi les contenus de ces promesses où Dieu promet à Abraham qu'il serait une bénédiction pour toutes les familles de la terre, et que nous, on pouvait peut-être aussi s'approprier cette promesse. Et ce matin, on va s'attarder sur un peu la fin de sa vie et puis deux changements majeurs qui l'occupent. Le premier, il n'est pas très réjouissant, mais ça devait arriver, c'est qu'il devient veuf, c'est qu'il perd son épouse, Sarah, et il se retrouve tout seul avec son fils Isaac. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de la promesse de Dieu pour Abraham, c'était qu'il serait à l'origine d'une descendance extrêmement nombreuse. Ça, c'est la promesse. La réalité, pour le moment, c'est qu'il se retrouve veuf avec un fils qui est toujours chez lui. De là à penser que Isaac, c'était un tanguy des temps anciens, il n'y a pas grand-chose qui nous sépare de cette réalité-là. Mais toujours est-il qu'il est là, vieux, avec un fils, toujours à la maison, finalement, dont on sait peu de choses. Si ce n'est qu'il a déjà dû vivre une expérience assez traumatisante, puisqu'il a vécu un voyage assez mouvementé avec son père, qui l'a emmené sur un âne jusqu'à une montagne, il ne savait pas exactement pourquoi, comment. Et ce père, il avait reçu l'ordre de Dieu de le donner en sacrifice. On imagine la crainte, quand même, le traumatisme de cet Isaac. Je ne vais pas m'attarder longtemps sur cet épisode, mais pour lui, ça a dû être quand même quelque chose d'assez extraordinairement fort au niveau émotionnel. Se retrouver là-haut, il ne savait pas exactement ce qui se passait, ni pourquoi, ni comment. Mais il s'est retrouvé là avec son père et au dernier moment, Dieu est intervenu puis dire « Non, ça, c'est, je ne veux jamais de ce type de sacrifice. Je veux quelque chose d'autre. Je veux des béliers qui étaient juste là. » Il y avait cette demande qui était là. Alors, il a une relation avec son père un peu particulière. Et puis, pour que cette promesse puisse prendre corps, effectivement, il y a un deuxième changement que Abraham va devoir affronter. C'est celui d'accueillir une belle fille. Et c'est ce dont on va parler ce matin. C'est un peu tout ce processus, et vous allez voir qu'il est assez intéressant pour nous, d'accueil finalement d'une belle fille dans la famille d'Abraham. Parce que c'est de ça qu'il est question dans le chapitre 24 de la Genèse. Alors c'est un chapitre qui est assez intéressant, puisqu'on va le découvrir ce matin. Vous allez voir que tous ces changements qui se vivent au sein de cette famille, tous ces changements de cette quête d'une épouse pour Isaac, je trouve qu'il y a différents points qui nous peuvent nous parler dans nos modes de vie, dans nos parcours de vie, lorsque l'on est en route avec Dieu. Lorsque l'on est en route avec Dieu, peut-être que ce qui se passe dans cette quête d'une épouse pour Abraham et Isaac, pour Isaac surtout, eh bien, on peut les retrouver dans nos vies. Si. Donc, Abraham, il est vieux, il se retrouve sans Sarah, comblé de bénédictions du Seigneur. Mais à vue humaine, la promesse, elle n'est pas encore là, d'établir une grande descendance. C'est pour l'instant figé, fixé. Comme le truc, là. Il y a le chant qui revient. Quant à Isaac, on a l'impression plutôt que il est assez passif, il attend que ça lui tombe dessus, comme moi, c'est bien. Alors ça m'est tombé dessus, c'est magnifique. Et puis qu'il attend finalement que tout à coup une épouse débarque de je ne sais où pour le combler et arriver enfin à cette descendance qui doit venir. On a un peu l'impression aussi que c'est le contraire de son fils Jacob. Je ne sais pas si vous connaissez son histoire, mais lui Jacob, il a été assez actif pour trouver des épouses puisqu'il s'est exilé, il est parti de la maison familiale assez tôt. Il a dû travailler 7 ans dans le vide parce qu'on y a donné la mauvaise. Et 7 ans ensuite pour épouser celle enfin que son cœur désire. Vous rigolez, mais c'est quand même ça, on lui a donné la mauvaise, hein, c'est la réalité. Et pour trouver une épouse à Isaac, Dieu n'appelle pas Isaac, mais il appelle le serviteur d'Abraham, pour lui confier une mission de la première importance. Alors, bien sûr, il y a facilement les critères que nous, on imagine, pour trouver une épouse, hein, c'est qu'elle doit être belle, joyeuse, agréable, simple, enfin vous faites la liste, hein. Vous avez tous des critères très très précis, je suis sûr. Mais en fait, pour le serviteur, il y a un critère qu'il doit respecter, c'est qu'il doit retourner dans la famille d'Abraham, parce que je vous rappelle qu'Abraham est exilé dans un pays étranger, il doit retourner dans sa famille pour trouver une épouse de son clan, ce qui implique un grand voyage. Il s'agit pour le serviteur d'y aller et de remplir sa mission. Elle est claire, cette mission, c'est aller trouver une épouse. Et, comme souvent dans nos vies, le serviteur, vous allez voir, sa réaction, elle est assez interpellante. Tu iras dans mon pays et dans ma famille, et là, tu choisiras une femme pour mon fils Isaac. Ça, c'est le contenu. Et le serviteur lui répond tout de suite, « La femme refusera peut-être de me suivre ici. Alors, est-ce que je dois ramener ton fils dans le pays que tu as quitté. » Je trouve que c'est assez intéressant. Hein. Dieu donne une mission, bien en l'occurrence, là, Abraham donne une mission qui transmet à son serviteur, et malgré que le fait que la mission soit très claire, première réaction du serviteur, c'est quoi ? Un doute. Est-ce que tu es vraiment sûr que c'est comme ça que ça doit se passer ? Est-ce que tu es vraiment sûr qu'il n'y aura pas des problèmes sur le chemin ? Est-ce que tu as pensé à ci, à ci, à ça ? Est-ce que tu crois vraiment que je vais y arriver? Puis si je ne devais pas y arriver, quel serait le plan B? Ça ne nous concerne pas, hein, ce genre de pensée. On n'a jamais ce genre de pensée lorsque l'on entame un projet. C'est seulement le serviteur d'Abraham. Nous, on n'a pas ce genre de choses. C'est interpellant que malgré le fait que ce soit simple, que ce soit clair, souvent, notre première réaction, c'est qu'on émet des doutes. Ça fait partie du processus, je crois. Il ne faut pas en avoir peur, ni considérer que c'est mal, ou bien se ronger par la culpabilité si on en a. Ça fait simplement partie du processus. Le seul petit conseil que je peux peut-être vous laisser, c'est de ne pas rester coincé dessus. Se dire, ces doutes peuvent être dépassés, ces doutes peuvent être remis en doute, justement. C'est un scénario qui est très fréquent, même dans la Bible, avec des grands, grands hommes de Dieu. Moïse, quand il reçoit sa mission d'être à la tête du peuple d'Israël, première chose qu'il raconte, c'est quoi, vous vous souvenez? Ceux qui connaissent bien leur Bible, c'est « De toute manière, moi, je ne suis pas appelé à être un leader parce que je suis incapable de parler en public. Je suis incapable de leader un peuple comme ça parce que de toute manière, je ne suis pas à la hauteur. Donc, ce n'est pas pour moi cette tâche, je la laisserai à d'autres. » Et là, c'est son frère qui doit intervenir, l'aider, pour qu'il puisse quand même prendre cette responsabilité. On a encore d'autres dans la Bible, des exemples de ce type-là. Jonas, par exemple, on lui donne une mission très claire, mais il fuit le plus loin possible, à l'opposé de ce qu'on lui demande. Parce que finalement, cette mission, ça lui fait peur et il émet des doutes par rapport à cela. Pierre, l'apôtre Pierre, le grand apôtre Pierre, la pierre sur laquelle Dieu décide de bâtir son église, quand ça commence à devenir chaud au niveau de sa mission, il a des doutes, il prend la tangente, il fait autre chose. Donc vous voyez que si on a des doutes, on est en très bonne compagnie. Voilà, c'est ce que je voulais vous laisser. Mais toutes ces personnes-là sont allés au-delà de leurs doutes pour finalement vivre cette mission. Et cette mission, elle prend cette forme-là. Le Seigneur qui est au ciel m'a fait quitter, c'est Abraham qui s'exprime là, m'a fait quitter la maison de mon père et le pays de ma famille. Il m'a parlé et il m'a fait ce serment. Je donnerai ce pays à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. De nouveau, beaucoup de foi dans cette parole. Il enverra son ange devant toi. Alors tu pourras ramener de là-bas une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras libéré du serment que tu vas faire. En tout cas, ne ramène pas mon fils là-bas, chez les miens. Et puis c'est peut-être un deuxième point intéressant lorsqu'on est en mission, lorsqu'on a une demande, qui découle directement de ce texte, c'est qu'il est impossible pour nous de nous mettre en route, et puis ça je l'ai déjà répété plusieurs fois, si on n'est pas sûr d'être accompagné par Dieu et ses promesses. C'est impossible, la tâche serait beaucoup trop élevée pour nous. On est obligé d'emmener avec nous la certitude d'être accompagné. On vient de chanter le chant, la magnifique, on l'a répété plusieurs fois, sur Dieu qui est Emmanuel. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, Emmanuel. C'est vraiment ce Dieu qui est avec nous. Et ce n'est pas une question de sensation, ce n'est pas une question de « voilà comment je me sens ». C'est une certitude de la foi. C'est une promesse qui nous est donnée dans nos cœurs, indépendamment de quel état sentimental ou mental on peut se trouver. Il y a cette promesse à laquelle on croit. Oui, Dieu est avec nous et il nous accompagne. C'est exactement le cas aussi pour ce serviteur qui part en voyage en étant sûr d'être accompagné par l'ange du Seigneur. Il enverra son ange devant toi. Suis-le. Et le deuxième point qui est très intéressant dans cet envoi en mission et cette promesse qui l'accompagne, c'est que le serviteur, je ne sais pas si vous avez remarqué, il est libéré du résultat de la mission. Si la femme ne revient pas dans le pays, ce n'est pas de sa responsabilité. Et c'est assez intéressant de voir comme il y a là une manière claire de discerner la part de Dieu et la part du serviteur. Il y a une part qui lui incombe, c'est de se mettre en route, d'y aller et d'effacer ses doutes finalement. Mais il y a une part qui reste celle de Dieu, c'est est-ce que Dieu va faire aboutir le voyage ou est-ce qu'il ne va pas le faire aboutir? Pour le moment, le serviteur n'en sait rien. Mais il se met en route, libéré du poids du résultat. Et ça, c'est assez fondamental parce que je trouve qu'on est assez souvent rongé par la culpabilité que si on n'arrive pas à avoir des résultats dans nos missions, on se dira qu'elle a échoué. C'est faux, c'est un mensonge. Et puis on peut se ronger pendant des années pour dire « mais là j'ai échoué ». La réussite ne nous appartient pas, et on va encore le voir par la suite, c'est Dieu qui fait aboutir le voyage ou qui ne le fait pas aboutir. Nous sommes libérés du résultat de nos missions. C'est Dieu qui s'en occupe. Il y a une part de confiance assez extraordinaire de se dire « Seigneur, moi je fais le maximum, je te présente, et ensuite je te laisse la suite des opérations. » Alors le serviteur, accompagné de ses promesses, accompagné de cette aussi libération du résultat, il s'en va. Il n'oublie pas de prendre avec lui plusieurs signes de richesse, parce que visiblement ça aidait, pour convaincre la famille de l'époux de potentiel, des chameaux, des bracelets, de l'or, finalement tout ce qui pouvait montrer que la future belle famille n'était pas si mal que ça. Et il part. Le voyage se passe visiblement sans trop de problèmes, on n'a pas d'informations là-dessus, pas de petites anecdotes croustillantes, et on retrouve notre serviteur au bord d'un puits. Alors le puits, dans la Bible et dans les milieux désertiques, vous pensez bien, c'est un lieu de rencontre. C'est un peu comme le Paléo à Nyon, ou bientôt le café de la Frate qui sera au rez-de-chaussée. Un lieu de rencontre, là où on se sent bien, là où les gens arrivent. Et sur ce puits, il fait cette prière. « Seigneur, Dieu de mon maître Abraham, permets-moi de faire une rencontre heureuse aujourd'hui. » Ça, c'est la demande. C'est intéressant, hein, précis. « Montre ainsi ta bonté pour Abraham, mon maître, car me voici près du puits, et les filles des habitants de la ville vont venir chercher de l'eau. Je vais demander à une jeune fille de pencher sa cruche pour que je puisse boire. Eh bien, si elle me répond « bois », et je donnerai aussi de l'eau à tes chameaux, je le saurai. C'est elle que tu as choisie pour Isaac, ton serviteur. Par là, je saurai que tu montres ta bonté envers mon maître. » Et presque trop beau pour être vrai. Le serviteur d'Abraham n'a même pas fini de parler que Rebecca arrive, la cruche sur l'épaule. C'est la fille de Bethuel. Bethuel est le fils de Milca et de Nahor, le frère d'Abraham. C'est une jeune fille très belle. Aucun homme n'a couché avec elle. Elle descend vers le puits. Elle remplit sa cruche et remonte. Et là, ce qui m'intéresse... Et on retrouve le thème de notre culte ce matin, puisqu'on est au cœur de ce passage. C'est que cette demande... il rencontre finalement un écho surprenant de la part de Dieu. Et puis moi, je suis un peu touché par la naïveté de cette demande. Je ne sais pas si on en fait souvent des demandes aussi naïves que ça. Voilà, je suis arrivé près du puits, maintenant fais venir cette dame. Je ne sais pas qui c'est, mais je compte sur toi. Il n'a même pas fini de parler que cette dame arrive et finalement le fruit tombe, comme un fruit mûr. J'aime bien la naïveté parce qu'on retrouve peut-être ce qu'on a pu évoquer dimanche passé, de se dire par rapport aux enfants qui ont cette ouverture naturelle à Dieu et à son action, sans se poser 36 000 questions. Il s'ouvre à Dieu et Dieu, dans sa souveraineté, peut provoquer des surprises assez étonnantes. Là, il en provoque une qui est franchement interpellante. Arrive Rebecca et fait exactement ce qui est attendu comme signe. Le serviteur, il a la reconnaissance. En l'occurrence, c'est très rapide et force est de constater dans nos vies que le rythme n'est pas toujours le même. C'est peut-être trop beau pour être vrai, mais parfois, il faut reconnaître que ça arrive aussi de manière très rapide et il faut s'en réjouir. On n'est pas tout le temps là pour se dire soit c'est trop lent et puis ça n'arrive jamais, soit pour dire c'est toujours la réussite et puis ça va vous tomber dessus comme ça, comme un fruit mûr. Il y a de tout avec Dieu et ces surprises sont à accueillir comme elles viennent finalement. J'en ai encore eu un exemple tout dernièrement dans ma famille, je ne vais pas le raconter parce que ça concerne mes enfants, puis je me suis dit que je n'allais pas parler de mes enfants forcément en public. Mais on a eu un signe comme ça, de ce type-là. On a pu prier le soir, et le lendemain matin, clac, ce signe tombe comme un fruit mûr. Petite chose de la vie, mais qui permet que la vie, une situation se soit débloquée. Extraordinaire. Et je crois que cet exemple, ça nous donne l'invitation de rester confiant dans les promesses de Dieu et de nous dire aussi qu'il n'y a pas de demande ridicule par rapport à Dieu. Cette demande, elle est un peu naïve du serviteur. Voilà, je te fais cette prière, Dieu de mon maître Abraham, permets-moi de faire une rencontre aujourd'hui. C'est clair, c'est précis, c'est peut-être trop évident, et pourtant Dieu répond et surprend ce serviteur. Je trouve ça très encourageant, plus que naïf. Restez confiant dans les promesses et les signes de Dieu, et restez ferme dans cette confiance. Magnifique invitation que ce serviteur nous fait ce matin. On poursuit. Parce que ce serait un peu triste de s'arrêter là. Elle arrive, mais qu'est-ce qui se passe? Le serviteur d'Abraham court vers elle et lui dit, « S'il te plaît, donne-moi un peu d'eau de ta cruche. » Et elle répond, « Je t'en prie, bois. » Vite, elle fait descendre sa cruche le long de son bras pour lui donner à boire. L'homme la regarde sans dire un mot. Elle se demande, « Est-ce que le Seigneur a fait réussir mon voyage, oui ou non ?» La suite, c'est l'action du serviteur et le silence du serviteur un poil après. Ce serviteur qui est auprès du puits, qui fait sa prière, il ne fait pas sa prière et ensuite il prend son iPhone pour passer le temps. S'il était sur son iPhone, il n'aurait peut-être pas vu Rebecca qui arrive auprès du puits si vite, et puis il serait passé à côté de la rencontre. Je dis ça à moitié en rigolant, mais souvent, nous, c'est ce qu'on fait. C'est « Seigneur, vite », puis après, on repasse à nos occupations, on n'est même plus attentif à ce qu'on a peut-être prié. On se dit « Ouais, voilà, c'est fait, c'est... » puis ensuite, je revaque à mes occupations. Le serviteur reste attentif et ensuite, il se met en action. Et je trouve très intéressant ce verbe « Il court vers Rebecca » parce qu'il a senti que c'était juste, il a besoin d'y aller. Dieu ne fait pas tout à sa place et c'est très encourageant. Dieu répond, il envoie Rebecca, mais le serviteur, il aurait très bien pu rester coincé sur le coin du puits. Puis en étant là, finalement, est-ce que j'ai le courage d'aller vers elle ou pas? Est-ce que c'est bien elle? Comment est-ce qu'elle va m'accueillir? Peut-être qu'elle va me rejeter et puis me dire, qu'est-ce que tu fais là? Toutes sortes de craintes, toutes sortes de questions qu'on peut très bien s'imaginer, qui auraient pu le garder sans réaction finalement. Le serviteur se met en marche, il court même vers Rebecca, car Dieu ne fait pas tout à sa place. Et ça, je trouve ça aussi interpellant, c'est de se dire, nos prières, ce n'est pas des actions magiques qu'on demande à Dieu. Il y a vraiment, de nouveau, on retrouve cette part entre l'action de Dieu et notre action qui nous est demandée par lui. On le sent très bien quand on doit y aller ou quand on ne doit pas y aller. Mais certaines fois, et je trouve assez frappant, on sait qu'on doit y aller, mais il y a encore des résistances trop fortes en nous, puis on se dit, ah, mais non, la prochaine fois. Ou bien une rencontre, on se dit, là, il y a pourtant des occasions en or massif de parler de ma foi, de dire qui est Dieu, par exemple, ou bien de partager simplement un moment d'amour, de transmission. Et puis, il y a quelque chose qui nous retient, puis on ne le fait pas, puis après on se dit, ah ben, peut-être ce sera une prochaine fois. Dieu nous donne des occasions dans nos vies, et pourtant, on a plutôt tendance à rester scotché sur notre iPhone comme le serviteur aurait pu le faire. Parce qu'on est pris par toutes sortes de choses, et puis qu'on se dit, ah, est-ce que c'est vraiment la bonne occasion ou pas? Je crois qu'on a besoin de se laisser aller, puis de se dire, oui, là, je peux courir vers le but, je peux rejoindre cette surprise de Dieu. Et le deuxième temps, je le trouve aussi assez intéressant, c'est qu'il s'interroge en silence, toujours sur le résultat final de son voyage. Est-ce que finalement, Dieu fera complètement aboutir le voyage ou pas? Il reste dans cette dépendance de Dieu, et il reste dans cette interrogation, parce qu'il ne prévoit pas tout de manière stratégique, il reste à la merci finalement de l'intervention de Dieu. Et de nouveau, on voit cette symbiose finalement, ce travail vraiment main dans la main entre le serviteur et Dieu. Le résultat ne lui appartient pas, mais il met tout en œuvre pour faire la volonté de Dieu. Et alors, un peu plus loin, ça ne remarche plus, on arrive après le puits, et puis on tombe sur ces versets 26 à 28, pour ceux qui ont les Bibles, vous pouvez le suivre, où l'homme se met à genoux devant le Seigneur, voilà, c'est le texte est là, et il dit « Merci au Seigneur, le Dieu de mon maître Abraham. Pendant tout mon voyage, il a montré sa bonté et sa fidélité envers son maître. Le Seigneur m'a conduit directement dans la famille de mon maître. » Et ensuite, je vous la fais courte pour la fin de l'histoire, il se déplace dans la famille de Rebecca, il raconte tout ce qui s'est passé, de la mission, les doutes qu'il a eus, il présente évidemment tous les signes de richesse, les chameaux, il les offre à la famille, à une petite phase de négociation, de prise de connaissance. Il passe la nuit là, ensuite le beau-frère arrive, le futur beau-frère d'Isaac arrive, lui dit « Est-ce que vraiment tu es sûr que tu veux le prendre avec ? Parce que nous, on permettrait plutôt à Rebecca d'attendre 10 jours pour réfléchir. » Serviteur dit « Non, non, on m'a donné l'ordre, je pense que c'est juste ça, la volonté de Dieu, qu'elle vienne avec moi. » Et finalement, chose étonnante, il demande à Rebecca son avis. Et Rebecca choisit effectivement de venir directement avec ce serviteur pour rejoindre Isaac qui deviendra son mari. Tout est bien qui finit bien, on a envie de dire. Mais toujours est-il que Dieu fait aboutir ce voyage, Dieu donne le résultat espéré dans cette situation, et le serviteur peut rendre témoignage de ce qu'il en est. Et ce qu'il en est, c'est la reconnaissance envers Dieu. Il se met à genoux devant le Seigneur et il dit « Merci au Seigneur, le Dieu de mon maître Abraham. Pendant tout mon voyage, il a montré sa bonté et sa fidélité envers mon maître. » Et ça fait pleinement partie de ce schéma de rencontre, de vie avec Dieu, à un moment donné, de pouvoir reconnaître et témoigner de l'action de Dieu. Ce geste de reconnaissance, il est beaucoup plus profond qu'il n'en a l'air. C'est peut-être un simple merci, mais c'est vraiment reconnaître qui est Dieu comme étant un Dieu qui intervient de manière tout à fait concrète dans nos vies. Et c'est pour ça que quand on peut partager, peut-être des fois de manière naïve, parce que là, le serviteur le partage de manière tout à fait simple et naturelle, de ce que Dieu fait dans sa vie, c'est hyper encourageant les uns pour les autres. Ce n'est pas une question de mode ou de dire que c'est quelque chose qui marche. C'est vraiment un aspect, une étape de notre relation avec Dieu, de pouvoir se dire, oui, Dieu est actif dans ma vie. Oui, Dieu m'a parlé à ce moment-là et j'en témoigne. Je n'ai pas honte de le dire, j'en témoigne. Reconnaître l'action de Dieu. Et pour cela, le serviteur a besoin de s'arrêter, de se mettre à genoux, de prier et de prendre ces temps-là de reconnaissance pour ce que Dieu fait dans nos vies. Il ne passe pas tout de suite à l'étape suivante. Il prend consciemment ce temps pour s'arrêter, se poser, regarder ce qui s'est passé et dire merci à Dieu. Alors, si on résume un peu ce schéma d'un exemple de vie avec Dieu, de parcours de vie avec Dieu, je trouve que c'est 5 éléments que je vous laisse là il nous parle, je trouve, fort dans nos vies toutes pratiques de chrétiennes, de chrétiens, de croyants au 21e siècle, qui finalement ont un peu les mêmes réactions, les mêmes attentes que ce serviteur d'Abraham. Ce schéma où, lorsque Dieu nous présente une mission, où on sait peut-être qu'on a quelque chose à faire, on va émettre des doutes. C'est une réalité. Pourtant, on est appelé à les dépasser. Cette certitude, comme Abraham a pu compter sur les promesses de Dieu, nous, on peut compter sur les promesses de sa présence, de son accompagnement par son Esprit Saint. Ce n'est pas une question de sensation, c'est une réalité dans laquelle on peut mettre notre foi, ce qui est différent. Ensuite, il y a cette demande et la surprise de Dieu qui vient avec un exaucement extrêmement rapide. Un exaucement qui peut être plus long, un exaucement qui peut être rapide, avec toutes les questions que ça suppose. Finalement, ce serviteur se met en route. Il n'attend pas que Dieu fasse tout à sa place. Il se met en route. Il reste dans le silence pour remettre son sort à l'Éternel. Est-ce que Dieu va finir par faire aboutir ce voyage ou pas? Il reste dans la dépendance à Dieu pour finalement pouvoir reconnaître et témoigner à la famille d'Abraham, la famille de Rebecca et à Dieu, reconnaître l'action de Dieu dans tout ce processus. Et je vais terminer sur une piste très pratique. Vous savez qu'on a bientôt une possibilité unique de faire découvrir notre nouveau bâtiment, mais surtout de faire découvrir qu'est-ce qui l'anime, c'est-à-dire le Saint-Esprit et nous, ses témoins finalement. Et puis je vous invite peut-être à formuler cette même requête que le serviteur. C'est-à-dire, pour une personne, vous placer devant Dieu et puis dire, Seigneur, place devant moi, ces deux prochaines semaines, parce que c'est dans deux semaines cette inauguration, place devant moi une personne à qui je vais pouvoir partager un bout de qui tu es à travers ton église, puis peut-être l'inviter au concert le soir, à la porte ouverte, au culte le dimanche matin, pour qu'il puisse découvrir une partie de qui est Dieu à travers nous. Et je vous invite, peut-être comme le serviteur, à vous dire, Seigneur, je me place devant toi, je suis à ta disposition, et ma demande, c'est de dire, place sur ma route ces deux prochaines semaines une personne à qui je vais pouvoir passer un flyer ou simplement donner l'invitation par oral. Et là, peut-être quand la personne va arriver, parce que je suis persuadé que ça va vous arriver, ce sera bien de pouvoir vous rappeler du serviteur qui a couru vers Rebecca et qui ne s'est pas cherché mille excuses. Il ne s'est pas enfoui, il ne s'est pas caché, il y est allé et le résultat ne vous appartient pas. La personne va peut-être vous renvoyer votre flyer, ou bien va le déchirer puis le laisser tomber. Peut-être qu'elle va l'accepter avec un grand sourire puis vous remercier. Vous ne savez pas la réaction. Et je ne le sais jamais, je viens de passer quelques heures au marché de Nyon, là, samedi matin, avec plusieurs d'entre nous, avec Salomé notamment. Et puis on ne sait pas quelle est la réaction des gens quand on invite. C'est positif, c'est négatif. Certaines fois, c'est même un peu bizarre, les réactions qui peuvent nous arriver. Mais ça ne nous appartient pas. Ce que Dieu nous demande, c'est simplement de nous mettre en route, d'inviter. Et puis l'invitation que je vous fais ce matin, c'est de penser peut-être à une personne et demander à Dieu qu'il vous place devant vous une personne. Ce n'est peut-être pas une personne à laquelle vous avez pensé, mais d'être simplement ouvert à son action. Puis quand ça arrivera, se dire, allez, je crois que c'est le bon moment, j'y vais. Et je me lance. Je vous invite à la prière. Notre Père, merci parce que tu es un Dieu surprenant. Tu es un Dieu qui exauce nos prières et tu es un Dieu qui nous met en route. Seigneur, merci pour cet exemple de ce serviteur d'Abraham qui, malgré ses doutes, malgré ses questions, est resté dans la dépendance avec toi, est resté ouvert à ta parole, à ton écoute, Seigneur. Merci aussi parce qu'il nous donne cet exemple de mise en route, de mise en marche, dans la confiance avec toi. Seigneur, merci parce que cela rejoint beaucoup de situations de nos vies où nous pouvons consciemment nous dire que, oui Seigneur, nous voulons compter sur toi. Nous voulons compter sur toi et nous attendre à toi. Seigneur, surprends-nous dans nos vies et permets que nous nous laissions surprendre par toi et par ta grâce. Merci parce que tu es Dieu fidèle et que tes promesses ne changent pas et que nous pouvons compter dessus. Dans le nom de Jésus, Amen.